air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Alors maintenant que ton jingle nous a assurément réveillé, de quoi vas-tu nous parler ce matin ?
Alors ce matin, ce sera un petit peu particulier pour cet édito scientifique, car nous allons débroussailler un sujet quelque peu étrange et sensible dans le milieu des sciences, qui est la publication et la diffusion du savoir. Car ça y est, c'est fait, il est fort probable pour qu'en France, nous ayons enfin mis fin à la diffusion sauvage en open access gratuit. Oh, quel vilain mot ! Aux publications scientifiques de qualité. Et oui, les éditeurs de publications scientifiques classiques comme Elsevier ou Nature sont enfin parvenus à leur fin. Le 7 mars dernier, le tribunal de grande instance de Paris a donc exigé des principaux fournisseurs d'accès à Internet que sont Orange, Bouygues, SFR ou Free de bloquer l'accès au site Sci-Hub ou LibGen. Alors là, soit vous vous dites que c'est la cata, soit ces deux noms ne vous évoquent absolument rien.
Bon alors, c'est la cata, mais explique-nous quand même, Maxime, ce que sont ces deux sites et puis les rôles qu'ils tiennent dans la diffusion du savoir scientifique.
Alors, Sci-Hub, donc développé par Alexandra Elbakian ou encore LibGen, sont des sites web pirates qui permettent un accès libre et gratuit aux articles scientifiques publiés chez les éditeurs classiques, articles dont le coût peut varier de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros. Sci-Hub référencerait ainsi plus de 70 millions d'articles scientifiques et LibGen plus de 25 millions. Chaque jour, ce serait quelques 700 000 téléchargements qui seraient opérés depuis Sci-Hub, par exemple. Ces chiffres impressionnants, vous en conviendrez, mais qui sont face à des maisons d'édition, des mastodontes, dirons-nous, comme Elsevier ou Nature, justement, qui sont implantés depuis le 19e siècle dans le domaine de l'édition scientifique, avec chacun plus de 3000 revues et des dizaines de milliers d'ouvrages à leur actif, pesant au final plusieurs milliards d'euros chacun. Ces sites pirates, donc, contournent les systèmes de paiement des revues de ces éditeurs et procurent un accès gratuit mais illégal, d'où leur déboire avec la justice, depuis un certain nombre d'années maintenant. Et pourtant, malgré cet aspect délictuel, ces sites web bénéficient d'une notoriété certaine auprès des universitaires et des chercheurs. Car il est bon de rappeler dans quel contexte ces plateformes web de hacking ont été créées et contre quoi leurs créateurs ont voulu lutter.
Alors à t'écouter, les développeurs de ces sites sont des justiciers qui luttent contre les vilaines entreprises faisant de l'argent sur le dos des pauvres chercheurs et pauvres universitaires exploités, c'est à peu près ça.
Eh bien, de mon point de vue, on n'en est vraiment pas loin, puisque... On va faire un petit zoom sur ce monde qui est la publication scientifique pour mieux percevoir l'envers du décor. Alors pour que les travaux d'un chercheur soient validés, ils doivent être publiés dans une revue scientifique. Et pour cela, le chercheur doit payer pour cette publication. Le chercheur perd alors son accès à ses propres travaux. Et les universités, donc siège de la recherche publique, doivent également payer pour pouvoir consulter ces revues et les proposer aux étudiants, dont une partie justement de ces articles ont été produits chez eux. Alors, comme c'est en grande partie l'argent du contribuable qui finance la recherche publique, c'est cet argent public justement qui finit dans les poches des éditeurs. Et quand je parle d'argent, il s'agit de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros d'abonnements annuels. Et pour les plus grosses universités du monde, comme pour Harvard ou l'Université de Californie par exemple, elles doivent dépenser plusieurs millions d'euros pour l'accès à ces abonnements pour ces revues scientifiques, ce qui est absolument démesuré. Enfin, les lecteurs particuliers ont aussi accès à ces revues et doivent payer, quant à eux, plusieurs dizaines à centaines d'euros par an pour y avoir accès. Donc, si à tout cela vous ajoutez une hausse des prix d'abonnement d'année en année, ce qui est le cas et pas évidemment basé sur l'inflation classique du marché, vous comprendrez que la situation devient rapidement problématique et que certaines universités aient pu ainsi boycotter certaines maisons d'édition en arrêtant de souscrire à leurs revues. Il n'est alors pas étonnant que des sites comme Sci-Hub et LibGen soient créés et se popularisent rapidement.
Mais ces coûts importants ont peut-être une explication probante.
Alors, l'unique dans l'affaire, c'est qu'il semble bien que non. Payer de telles sommes aujourd'hui pour de la publication principalement informatisée, de moins en moins papier et donc moins coûteuse, paraît vraiment aberrant. En plus, l'intérêt de publier dans ces revues pour un scientifique, outre la reconnaissance de ses travaux, qui est comme le facteur d'influence, qui est non négligeable dans le domaine des sciences, c'est la relecture et la correction en validation par les pairs. Or, ce processus est réalisé sur le principe du bénévolat et ne coûte rien aux éditeurs. Bref, il semblerait que rien ne justifie un tel système, si ce n'est un héritage historique qui a oublié de se mettre à jour. De plus en plus de chercheurs et d'universitaires boycottent ces éditeurs et travaillent à la publication gratuite de leurs travaux, disponibles pour tous. Mais le manque de visibilité et d'influence reste des problèmes pour la reconnaissance de ces publications indépendantes. Sci-Hub et LibGen restent controversés, puisqu'illégaux, mais ont le mérite de mettre en lumière un système jusque-là invisible. Ces sites ne sont donc pas une fin en soi. Ils ne sont, espérons-le, qu'un moyen transitionnel temporaire vers une diffusion du savoir scientifique gratuite, accessible pour tous. En attendant, l'utilisation d'un VPN devrait vous permettre de continuer à utiliser ces sites web. Et nous attendons évidemment que la justice soit traduite en appel. Voilà.
Merci beaucoup Maxime. Sur ce point, sur l'édition scientifique, effectivement, j'avoue être tombé sur une page d'erreur de mon navigateur en cherchant un papier sur LibGen pas plus tard qu'hier. Je suis donc particulièrement sensible à cette problématique. Merci encore pour cette chronique scientifique.